Il est 19h sur le 101.5 de Radio G ou l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. On est le 24 avril si je ne me trompe pas, et le jour que vous voulez hein, du coup si c'est un podcast. Et ce soir on va parler de manga pas du tout connu, d'enfants, de profs, de science-fiction, d'écologie. On aura une interview et une invitée. Et attention, générique qui est pas du tout prêt, super. Voilà, on meuble un peu quelques secondes, ça montre la joie du direct. Et c'est parti pour le générique.
Sauvez-vous tous ! Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui par le truchement des ondes radiophoniques va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. Seb au micro, nous sommes ensemble pendant une heure et j'espère qu'on va passer un bon moment. J'ai le plaisir d'être accompagné ce soir par Amy Bill. Tu vas me tenir compagnie pendant une heure, bonsoir Amy.
Oui, bonsoir.
Ça va bien ?
Ça va bien et toi ?
Bah ouais, t'es un peu inhabituée hein, maintenant.
Ouais, ça fait trois fois là je crois.
Ouais, parce que la première fois c'était enregistré.
Ah non, la deuxième fois on s'était enregistré, ouais,
c'était
pour le tome
2,
donc ça fait quatre en fait.
Ça fait quatre au total. Attends. Bon, pas de, plus de stress maintenant, c'est
non,
bon.
Non, ça
c'est...
va, ouais, comme à la maison.
Bon, et ben du coup on va commencer avec toi tout de suite. Tu viens nous parler de ton nouvel album qui sort là tout frais. Hein.
Oui, il sort jeudi.
Jeudi, donc on est en exclu, la première interview que tu fais, j'espère.
Oui, tout à fait.
Bon, cet album s'appelle Journal d'Instit, secret en salle des maîtres. C'est publié aux éditions Michel Lafon. Et du coup, c'est l'envers du décor de tes précédents albums, en fait.
Voilà, c'est ça. En fait, on retrouve une équipe d'enseignants dans une école fictive hein, que j'ai inventée. Et on les retrouve dans la salle des maîtres.
Qui à est... Sainte-Joie, j'ai perdu le nom.
Non, vas-y, regarde, je te laisse chercher.
À Longueville-du-Bois, Longeville-du-Bois.
Voilà. Totalement sorti de mon imagination aussi.
Ouais, bon. Mais il y a du vécu.
Voilà, et en fait, les enseignants se retrouvent dans la salle des maîtres, qui est la salle interdite aux enfants, aux familles. Et c'est un peu leur sas de décompression. Ils viennent se raconter leurs petites anecdotes, leurs petites frousses, leurs émotions, ce qu'ils vivent au quotidien avec les élèves.
Alors, t'as gardé ton style de dessin habituel pour cet album-là, même si j'ai l'impression qu'il y a plus de décors, plus d'action, plus de...
Ouais. Alors,
c'est plus sur des petites scénettes.
Voilà, c'est ça. Il y a plus de, c'est plus des petites histoires qui se suivent sur un plus grand nombre de pages, on va dire.
C'est plus compliqué à mettre en place ce genre
oui.
de choses.
Bah oui, parce qu'en fait, avant, quand je faisais des anecdotes sur une page ou sur 3-4 vignettes, c'était assez rapide, assez simple à faire. Là, il faut varier la position des personnages. Représenter un peu plus les émotions et puis effectivement j'avais envie de mettre un décor, j'avais envie de situer vraiment les scènes dans différents endroits, donc je me suis mis la barre un peu plus haute.
Ça fonctionne plutôt bien. On imagine qu'il y a beaucoup de vécu, alors du tien, peut-être aussi du vécu de collègues dedans.
Oui, voilà, beaucoup du mien, un peu de mes collègues, ouais, en effet.
À quel pourcentage d'invention et
de réel ? Allez, je dirais 70% mon vécu.
D'accord.
Ouais.
Bon. Des décors complètement variés, puisqu'on va passer aussi bien de la salle des profs à l'intérieur d'un bus ou une salle d'une piscine.
Ouais, voilà.
C'était rigolo à dessiner un maître nageur en maillot de bain.
Carrément. Ça s'y fait plaisir. J'ai pris un peu le cliché du maître nageur, un peu sec, un peu froid, mais musclé et puis qui essaie d'en imposer même s'il est en slip.
On ressent ça dans l'album en tout cas. Donc ma vie d'instit, il y en aura plus ou ce sera un...
Bah j'ai pas prévu pour l'instant d'en faire un autre, non, parce que je me dis que 3 c'est un bon chiffre, ça fait trilogie et j'aurais pas envie que ce soit redondant là, j'ai plutôt envie de me tourner vers autre chose.
OK. Et là on peut imaginer par contre Journal d'instit d'avoir plusieurs tomes.
Oui, carrément, ça peut être il peut y avoir d'autres sortes de Journal d'instit, ça peut être je sais pas, en voyage scolaire ou en maternelle ou voilà, j'ai plein d'idées en tête, chose. Ouais, il y aura toujours de quoi faire.
Moi j'ai été un petit peu surpris sur un point, c'est qu'il y a pas de vie privée dedans.
Non.
Il y a que de l'instit et ils se parlent pas de ce qui se passe chez eux.
Si, il y a de la vie privée pour la dernière anecdote avec l'enseignante qui accouche et jusqu'à son accouchement elle pense encore à ses élèves, à sa classe.
C'est vrai, j'ai oublié ce passage là.
Ouais, mais ouais. Sinon c'est vrai que c'est que au sein de l'école et qu'avec les élèves.
Bah, on recentre un petit peu le récit. Les élèves qui sont très peu présents, hormis justement dans les séquences un peu flashback, un peu racontées.
Ouais.
Du coup, ça permet de rehausser un petit peu le récit au niveau des adultes, en fait.
Oui, voilà. De toute façon, mes BD s'adressent à un public d'adultes. C'est vrai que les enfants peuvent lire les 3 premières avec quelques petites censures pour la 3e.
Ouais, faut sélectionner un
voilà.
petit peu.
Mais là, c'est vrai que c'est plus pour des enseignants ou des gens qui s'intéressent au métier d'enseignant et qui veulent connaître un petit peu la face cachée de notre métier.
Il y a tout un passage sur justement une instit débutante qui va préparer un petit peu son année, quitte à se saturer les vacances juste avant.
C'est ça.
Ça, c'est du vécu.
Ben, ça, c'est bienvenue dans notre vie. Hein. C'est, c'est exactement ça. Plus on est jeune, plus on passe de temps à préparer. Et effectivement, les 2 mois de vacances avant la première rentrée d'une carrière sont consacrés en grande partie à la préparation de la classe.
Je trouve qu'il est complémentaire à... je sais plus, c'est le tome 2 où justement il y a le début de ton parcours avec la saturation ou avec 3-4 niveaux dans la même classe.
C'est ça, 5 même.
5, voilà, j'étais pas sûr, je voulais pas exagérer, mais était tout en deçà. Et du coup, je trouve que c'est de bons modes d'emploi, en fait, de bonnes découvertes aux gens qui veulent partir vers le métier d'instit.
Oui, et c'est sûr que ça met en image le métier, en fait, et de manière humoristique, donc ça dédramatise, je pense, le métier.
Et t'as pas peur que ça fasse un petit peu peur sur certaines anecdotes, justement?
Non, parce que ça reste drôle.
C'est donc, clair.
Mon but, c'est pas de faire fuir les gens. Au contraire, venez.
Il manque d'instit, en
fait,
de toute façon.
Ouais, on en manque. Oui, exactement.
Je pense qu'on a fait pas mal le tour, parce que c'est... Je donne l'anecdote, mais je ne l'ai lu que hier soir.
Oui.
J'ai pas eu beaucoup le temps de préparer, mais il y a plein de choses qu'on voit aussi nous en tant que. Alors moi, je suis papa, hein, donc il y a des choses que je vis de l'autre côté du décor. Ce sera peut-être un troisième cycle à faire.
Oui, c'est
ma vie de parent.
Ouais. Carrément.
Mais par exemple, juste les petites anecdotes sur les gâteaux.
L'anniversaire.
Voilà. Où maintenant, on est très bridé sur ce qu'on peut proposer.
Ouais.
Et du coup, effectivement, le fait de faire souffler sur une pâte à modeler, c'est une bonne idée. Prenez-la.
Ça évite que les gens
postillonnent sur les gâteaux.
C'est ça, exactement. Moi, je le fais à la maison aussi avec mes enfants maintenant. Comme ça, quand on fait les anniversaires, il n'y a pas de microbes qui sont partagés au moment du soufflage de bougies.
Donc, pour les gens qui n'ont pas vu qui n'ont pas entendu les précédentes interviews, est-ce que tu peux juste nous reparler de ta façon de travailler le dessin?
Ouais.
Tu travailles en numérique, si
voilà,
je me trompe
pas. J'ai une tablette graphique, j'ai une Wacom. Depuis très peu de temps, j'ai aussi acheté un iPad Pro. Donc,
okay.
je commence à me former à Procreate.
Okay.
Mais toutes mes BD là ont été faites sur tablette avec Photoshop. Et donc, je fais mes brouillons sur la tablette. Je fais l'ancrage sur Photoshop ensuite, donc avec les contours noirs. Et je colorise aussi sur Photoshop avec une multitude de calques, parce que c'est ce que j'aime vraiment, superposer les calques, rajouter des ombres, des lumières, des nuances.
T'as réussi à atteindre une limite de calque sur ton ordinateur ou...
Eh ben non, sur Photoshop, il n'y a pas de limite pour l'instant. J'ai pas été gênée. Par contre, sur Procreate, je le suis.
Ah mince.
Ouais, bah ouais.
Bon.
Donc c'est complémentaire, en fait. Je sais que je vais servir des deux.
Procreate, mais il y a quand même une petite limite.
Ouais, voilà, c'est ça.
Bon, alors c'est peut-être pas le moment d'en parler, mais t'as un autre projet qui sera peut-être un peu plus avec une thématique un peu plus complexe.
Ouais, c'est ça. Là, je suis en train de travailler sur un roman graphique qui sortira dans un an et donc qui aura pour thème le harcèlement scolaire.
Ouais,
donc beaucoup moins léger. Et là, pour le coup, il y aura la vie privée des enseignants, des enfants, des parents, puisque tout se recoupera pour voilà, il y a des choses qui se vivront en commun à l'école, mais des choses qui se vivront aussi en dehors, et tout ça, tout ce qui se vivra en dehors aura des répercussions sur
Sur ce qui se vit à l'intérieur.
Ouais, exactement.
Ok. Sujet plus difficile à traiter.
Exactement, plus difficile, et puis avec un beaucoup plus grand nombre de pages aussi, donc c'est du boulot, mais j'aime bien me donner des challenges comme ça.
Mais il faut.
Ouais,
surtout sur des sujets comme ça qui sont importants à.
Bah
à
oui, en fait, c'était pour moi c'était une évidence de parler de ça du fait de mon métier en fait en tant qu'enseignante, je peux être confrontée au harcèlement scolaire et en parler en bande dessinée, c'était le passage obligé.
Est-ce que tu avais on est en train de faire une deuxième interview en fait dans l'interview mais tu sais qu'il y a pas mal d'ouvrages qui parlent déjà du harcèlement scolaire. Est-ce
ouais.
qu'il y en a dont tu t'es inspiré ou que tu as lu avant ou
pas du tout, j'en ai lu aucun.
Okay.
Et j'en lirai pas avant de finir ma BD parce que j'aurais peur d'être peut-être un peu trop inspirée ou peut-être de me fermer des portes sur des notions que je vais aborder. Je préfère rester vierge de tout ça avant.
Okay. Oh, bah c'est... C'est peut-être plus complexe, mais en même temps, ça te permet d'avoir un avis qui est direct,
oui, voilà.
qui n'est pas dépendant d'un autre média.
C'est ça, ma vision des choses.
Très bien. Bah, écoute, j'ai bien fait de ne pas apporter un manga qui a beaucoup fonctionné il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Le péché originel de ta copie,
ouais.
Qui parle de harcèlement scolaire.
D'accord, bon, eh ben, je me le garde pour après.
Qui n'est pas très joyeux du tout.
D'accord.
Je pense que ce n'est pas un thème joyeux, il y aura peut-être moins de blagues, j'imagine.
Beaucoup moins de blagues. Je vais en mettre pour que ça respire de temps en temps.
Un peu,
ouais. Mais non, ce sera pas drôle.
Ok. Est-ce que tu as déjà des séances de dédicaces qui sont prévues, dont tu peux parler ?
Oui. Donc samedi prochain, le 29 avril, je serai à la librairie Richer de 15h à 18h. Et puis le 13 mai, samedi 13 mai, 14h-17h, je serai au Cultura de l'Atoll.
Ok. Je te verrai peut-être, hein. J'ai rien t'embêter.
Allez.
N'hésitez pas. Tu dédicaceras tes autres albums?
Oui,
ou
il y aura les quatre, du coup.
Il y aura les
quatre. Ouais.
Ok. Donc, si vous êtes prof, si vous êtes instit, si vous avez des enfants, n'hésitez pas à retrouver Amy Bill, à lire Journal d'Instit. J'avoue que c'est très drôle à lire, même si on n'est pas instit. Je pense que ça parle encore plus quand on a une âme d'enseignant. Moi, je me trouve plus dans les gamins qui font du bazar. Tu vois.
Ouais. C'est plus... comme ça, il y en a pour tout le monde. C'est bien.
C'est clair. C'est publié chez Michel Lafon.
Oui.
On n'a pas parlé. Ça s'est bien passé, la collaboration avec Michel Lafon.
Oui, très bien.
Comment ça se... Je dis pas du mal de City Edition, mais c'est encore un cran au-dessus en termes d'édition, en termes d'exigence.
Oui, il y a beaucoup plus de suivi éditorial en fait. Là, on m'a fait retravailler des choses, on m'a fait refaire la couverture. Il y a beaucoup plus d'aller-retour entre eux et moi au niveau des mails, enfin de la correspondance. Pour tout quoi, pour la couverture, l'intérieur, les remerciements, et puis même après là, la communication, les salons, les dédicaces. Je sens que j'ai mis le pied chez une plus grosse maison d'édition. Ouais.
Et ça te bride pas au niveau créativité, t'as quand même une grande liberté.
Ouais, par contre ils m'ont laissé libre sur ce que je voulais aborder. Ouais, ça c'est, il y avait pas eu de souci à ce niveau là.
Ok, tu disais que tu avais retravaillé la couverture. Là, c'est pareil, c'était plus. Qu'est-ce qui a pu être retravaillé?
J'avais proposé au début cette couverture-là, et puis ils avaient du mal à ajouter le titre.
D'accord.
Il n'y avait pas assez de place pour le mettre. Donc, à un moment, ils m'ont demandé de refaire la même scène, mais dans l'autre sens, en fait. Là, on voit des enfants qui rentrent dans la salle des maîtres, on les voit de dos, et on voit les enseignants en train de corriger leur copie, boire un café ou manger des chocolats. Et là, ils m'ont demandé de faire dans l'autre sens, c'est-à-dire de voir toujours ces enseignants, mais de voir aussi les enfants qui rentraient.
Ok.
Et du coup, ça fonctionnait pas non plus. C'était trop chargé, donc ils sont revenus sur celle-ci, mais m'ont demandé de laisser un peu plus de place en haut. Et là, ils ont pu ajouter le titre.
Ouais, comme quoi, c'est ce que tu dis. Il y a beaucoup plus d'échanges.
Voilà.
Nous, on aimerait bien ça. Est-ce que tu penses ça? On pense que ça marcherait mieux. Et on essaye. Ça marche pas. On fait autre chose. Et
au niveau des couleurs aussi. Là, les couleurs de la couverture, c'est jaune, violet. Et au début, à la place du jaune, j'avais mis du vert.
Ok.
Et ils m'ont dit que commercialement parlant, le vert ne se vendait pas du tout bien en librairie.
Ok.
Voilà. Donc je savais pas.
On se posera la question pour celui-là derrière.
Ouais. Bah, moi, mon mon troisième, il est vert.
Il est vert, ouais.
Mon tome 3, mais bon, bah, voilà, je savais pas. Donc du coup, on a gardé le jaune et c'est vrai que j'en suis assez contente.
On voit qu'il ressort,
ouais,
en fait.
Ouais, bah oui, c'est lumineux.
Bon, bah impeccable. Eh ben écoute, est-ce que tu veux... Moi, j'aime bien demander aux gens de faire en quelques mots juste un tout petit pitch pour convaincre les gens s'ils doivent acheter ton album plutôt qu'un autre.
Eh ben, s'ils ont envie de passer un beau moment de rigolade et d'entrer dans la vie secrète des enseignants, qu'ils n'hésitent pas puisqu'ils en apprendront des vertes et des pas mûres.
Trop bien. C'est Amy Bill, c'est Journal d'Institut Secret en salle des maîtres et c'est publié aux éditions Michel Lafond. On se fait une courte pause musicale avec The Kids Aren't Alright, avec mon magnifique accent anglais de The Offspring, et on se retrouve tout de suite après sur le 101.5 de Radio G. Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours la case de Sam, on est toujours le lundi 24 avril, ouais, on voyage dans le temps, on a perdu 3 minutes, mais on est toujours 24 avril. Je pars en sucette, mais bon, vous êtes toujours en compagnie d'Amy Bill, qui me tient compagnie tout le long de cette émission. On parlait d'enfants, je vais parler du trésor perdu de Nora. C'est de Marco Rocci et Francesca Carita, c'est publié aux éditions Jungle. Alors tu lis pas beaucoup de BD de mémoire, hein.
Énormément, non, un petit peu, mais pas, non, j'ai pas ta culture.
Bah après, moi, c'est, on va dire que ça devient l'habitude, en fait. Ouais. Ça, c'est une petite BD qui est plutôt sympa. On a un côté très cartoon, très coloré, très pop, en fait, sur le dessin. Tiens, je te la passe. Comme ça, merci. Ça te permet de regarder en même temps. Et, du coup, on suit l'histoire d'une jeune fille qui, a beaucoup d'imagination. Et un après-midi, elle est en train de jouer avec son papa. Donc, elle s'imagine une grande aventure. Et à un moment, elle se retourne, son papa a disparu. Et du coup, elle va se mettre à la recherche de son papa, qui semble avoir été enlevé par des espèces de créatures boueuses. Malheureusement, son papa est malade, il a pas ses médicaments, et faut absolument qu'elle fasse quelque chose. Et elle va s'aventurer dans un monde complètement dingue, complètement loufoque, en compagnie d'une espèce de chat qu'on pourrait qualifier de chat en pâte à modeler, alors qui rappellera forcément le chat de Cheshire d'Alice au Pays des Merveilles. Mais ce chat, elle peut s'en servir, elle pourrait s'en servir de lance-pierre si elle voulait. Et le chat, il est pas forcément volontaire pour ça. Mmh. Et du coup, elle part à la recherche de son papa. Elle a besoin de son papa, hein. Il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin de leur papa. Et très vite, en fait, le lecteur se rend compte d'une chose, alors le lecteur adulte, parce que le lecteur enfant peut-être ne va pas l'identifier comme ça, mais c'est qu'en fait, elle s'imagine, c'est une quête de cette petite fille, dans la maladie de son papa, en fait. Donc, c'est une maladie, alors je suis nul, j'ai pas lu l'ouvrage sur les pathologies psychologiques ou psychiatriques, donc le DMS-5 je crois que ça s'appelle. Donc je ne suis pas capable d'identifier en fait la pathologie du papa, mais il a un trouble de l'identité, il a une espèce de parasite qui est avec lui et qui prend parfois son contrôle. Donc c'est plutôt sympa, hein, parce que ça peut se lire comme une grande aventure. Ma fille l'a lu sans vraiment se rendre compte que le papa avait une maladie. Il y a un méchant, ça marche vraiment très très bien. Et graphiquement, en plus, c'est franchement super sympa à regarder.
C'est joli.
C'est plutôt un bel ouvrage publié aux éditions Jungle. Donc, n'hésitez pas à y aller. Ça se lit vite, ça se lit plutôt facilement. Il y a plein de petites choses à lire en termes de sous-texte. La maman est plutôt absente. Est-ce que c'est dû à la maladie du papa? Est-ce que c'est dû à autre chose? Pas évident à dire. Il y a beaucoup de jeux sur les masques, sur le visuel, sur. Il y a une petite astuce où la petite fille à un moment met des lunettes, donc et elle voit les choses différemment. Donc, c'est les lunettes de son papa. On peut imaginer peut-être une allégorie. Je suis nul avec les bons termes, mais. Qu'elle a utilisé un microscope et que ça lui permet de voir au-delà de la surface, une métaphore. Voilà. Ça y est, je suis intimidé, une maîtresse. mais vraiment une belle histoire, une belle aventure pour les grands et pour les petits, et aussi pour les grands et les petits ensemble pour pouvoir aborder la thématique de la maladie. Ça marche bien. C'est vraiment très très sympa, donc faut pas hésiter à y aller. Ça s'appelle Le Trésor Perdu de Nora, c'est de Marco Rocci et Francesca Carita, et c'est publié aux éditions Jungle. Vers quoi je continue? Eh bien, j'avais mis quoi? Est-ce qu'on fait un peu de manga? Bon, on va rester chez les jeunes, avec un manga adapté d'un jeu vidéo pas du tout connu, ça s'appelle Animal Crossing. Donc un jeu vidéo qui a bénéficié de la plus grande campagne de pub jamais portée, surnommée le Covid, ce qui fait que les gens étaient chez eux et n'avaient rien d'autre à faire que de jouer à la console. Donc c'est certainement un des jeux vidéo les plus vendus de tous les temps. C'est publié chez Soleil Manga, donc c'est basé sur le jeu Animal Crossing New Horizon. C'est nommé Le Journal de Lille, c'est de Coco Nassou et de Rumba. Et en fait, c'est très potache. C'est très drôle, mais on va suivre trois aventuriers qui vont débarquer sur l'île s'ils étaient des joueurs, sauf qu'on va leur donner des consignes de jeu, mais ils vont pas forcément les appliquer telles que le joueur doit les appliquer. Ils sont un peu bêtes, soyons honnêtes, et ils vont mener la vie dure à tous les personnages en fait de l'île. Même si on essaie simplement de leur expliquer les règles qu'ils doivent utiliser pour pouvoir développer leur logement, se nourrir, c'est très drôle, c'est très barré, mais ça marche plutôt bien, donc c'est faut y aller. En termes de dessin, on est sur un dessin qui est plutôt lâché, qui est quand même pas mal précis, même si des fois on a des choses qui sont typiquement de l'humour japonais, de l'humour manga, mais ça marche bien. Si vous avez déjà joué à Animal Crossing, il y a beaucoup de personnages que vous allez retrouver là-dedans avec plaisir. On a le petit fantôme dont j'ai perdu son nom, qui a une particularité, c'est qu'en fait, ce petit fantôme, quand on le retrouve dans le jeu, on lui fait peur et il se divise en plein de petits fantômes qu'il faut aller chercher. Et ben là, il se passe à peu près la même chose, sauf que les personnages vont pas du tout faire la même mission que ce qu'on peut avoir en fait dans le jeu, ce qui est plutôt rigolo. Comme c'est lié à un jeu vidéo, il y a plein de conseils pour le jeu à la fin. Et pour les gens qui n'ont pas joué au jeu vidéo, ça se lit tout à fait bien sans. Et vous avez une petite plaquette de stickers, qui sont des stickers qui sont faits exprès pour le manga. Donc, faut pas hésiter à y aller. C'est plutôt rigolo, c'est plutôt potache. Donc, voilà. Voilà. Il y a même, c'est Amiral, je crois. Non, c'est Gulliver. Gulliver, c'est un goéland qui est tombé d'un bateau et qui s'échoue dans le sol et qui n'arrive pas à appeler ses copains parce que son appareil radio il est cassé. Donc vous retrouvez les trucs. Et le fantôme il s'appelait Follet. Voilà. Donc si vous connaissez Animal Crossing, ces mots-là vous parlent. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller visiter l'île en lisant Animal Crossing, le journal de l'île. C'est publié chez Soleil Manga et c'est de Kokonasu et de Rumba. J'hésite toujours en fait dans la progression, c'est pas toujours simple. On va parler d'un manga pas du tout connu, que même si tu lis pas beaucoup de mangas, t'as déjà entendu parler de ça au moins.
Oui.
tu sais de quoi ça parle ou pas?
Pas du tout par contre. Ah. Je connais que deux noms.
Alors je vais essayer de vous faire deviner, chers auditeurs, un manga pas du tout connu. Attention, ironie hein, ouais. Dans mes mots. C'est un manga où on suit des gens qui sont reclus derrière une muraille, derrière trois murailles pour être exact, dans une ville. Et puis un jour, il y a des personnes très très grandes et toutes nues qui viennent taper contre les murailles pour les manger. Bah oui, si vous avez, vous n'étiez pas dans une grotte depuis au moins 10 ans, vous avez sans doute reconnu l'attaque des Titans, qui là revient aux éditions Pika dans une édition anniversaire, qui est vraiment très très jolie. Alors les mangas souvent on a une jaquette, là la jaquette elle est gaufrée, donc il y a un petit truc vraiment sympa dessus, avec un petit effet brillant, donc qui rend vraiment sympa la jaquette, ce qui fait qu'on va pas avoir envie de l'enlever. Et puis, particularité de cette édition-là, c'est qu'on a des pages couleurs qui sont intégrées dans chacun des chapitres. Donc, j'ai pas pu comparer hein, les éditions précédentes, parce que je n'avais pas les éditions précédentes. Et ça rend vraiment l'ouvrage assez sympa, puisque de temps en temps, on va avoir ces pages de couleurs qui vont venir agrémenter notre lecture. C'est un trait graphique qui est plutôt dynamique, hein, qui est plutôt efficace, mais le noir et blanc donne beaucoup de sensations de vitesse. On a vraiment pas mal de choses, et puis le manga a un usage de la trame, ces points en fait qu'on va pouvoir retrouver pour donner du dynamisme, qui est quand même assez poussé, et la couleur n'enlève pas ça. Le travail sur la couleur était plutôt efficace, et ça donne vraiment une immersion différente en fait dans le manga. Ça a tendance un petit peu à, on va dire, casser la continuité de la lecture, puisqu'on passe d'une page noir et blanc à une page couleur, qui est un peu déstabilisant au départ, mais ça marche vraiment bien, donc c'est plutôt plutôt agréable. La version anniversaire inclut l'épisode 0, qui est plutôt un épisode origine, donc ce qui est plutôt sympa. Donc ça fait vraiment une édition, si vous avez pas les tomes précédents, ben n'hésitez pas à vous la procurer, elle est vraiment jolie et vraiment agréable. Alors c'est vrai qu'en termes d'édition, on a eu l'édition normale, on a eu l'édition colossale, donc qui était très grand format, et puis on a l'édition anniversaire. Chacune a apporté différentes choses. À vous de voir laquelle vous voulez décider. Si vous commencez maintenant, prenez cette édition anniversaire, ça vaut vraiment le coup. Vous le regrettez pas. Donc un petit peu plus cher qu'un tome classique. Je crois qu'avec l'évolution des tarifs, je suis pas très très sûr, mais voilà, faut y aller. Donc c'était bien entendu l'attaque des Titans d'Hajime Isayama, publié chez Pika Edition. Il y a la série d'animation à regarder. C'est vraiment le phénomène de toute une génération, l'attaque des Titans. Tout le monde en a entendu parler. Et je pense que c'est pas fini. Je vous propose de faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Là, j'ai choisi un petit morceau qui va permettre de basculer vers la publication d'après. Ça s'appellera, cette chanson s'appelle I Wish I Had an Angel de Nightwish. I wish I had an angel. I Had an Angel de Nightwish. J'aurais voulu avoir un ange. Bah, c'est un petit peu le thème de l'album dont on va parler tout de suite sur le 101.5 de Radio G dans la case de Seb, puisque j'ai choisi de vous parler de Sweet Paprika de Mirka Andolfo, publié aux éditions Glénat. Bah tiens, est-ce que tu peux me donner ton avis sur la couverture ? Alors, elle est verte.
Ouais.
Donc, elle se vend moins bien, normalement.
Bah, faut croire. Moi, je la trouve assez belle. Voilà.
Est-ce que tu peux la décrire ? Je te laisse, ouais. Je te fais travailler un petit peu.
Donc, on voit un personnage féminin, mais qui n'a pas l'air très humain, puisqu'elle a une queue de diable. Elle a des cornes et un espèce de bec pointu. Elle a une position assez langoureuse. Elle a une plume qui sort du dos, donc est-ce que c'est une aile d'ange qui est un peu cachée, on sait pas. Et puis les deux dos, elle relève ses cheveux en regardant le lecteur.
Eh ben, quel beau résumé. Alors, pour donner un petit peu le truc, cette diablesse s'appelle Paprika, elle travaille dans une maison d'édition, elle est CCO, j'ai oublié ce que ça voulait dire, mais elle est très haut placée, et du coup elle a plein de subalternes. Et elle a vraiment cette... c'est la représentation de la femme forte qui a carriéré jusqu'à fond et qui considère que tout le monde n'est qu'un larbin à sa botte. Et du coup, y a un personnage qui l'embête beaucoup, parce que c'est une espèce... Donc c'est un monde où les anges et les diables vivent, sont les personnages comme des humains. En fait, il n'y a pas d'humains, il n'y a que des anges et des diables. Et il y a un ange qui fait partie du service de livraison, qui vient livrer des colis et qui est un petit peu le toy boy de toutes les filles de cette maison d'édition. Et cette diablesse, ce personnage-là, l'énerve énormément. Et puis, à l'occasion de la négociation des droits d'un ouvrage qui s'appelle Spice It Up, qu'elle a édité, on va dire que c'est son job en fait, elle va rencontrer un producteur de la maison d'édition d'en face qui lui fait beaucoup d'effets, un diable. Et la problématique, c'est que Miss Paprika, bah, en fait, elle a été élevée de manière très stricte par un papa avocat et juge qui lui a dit « tu seras pas une dévergondée, il y a des trucs, faut pas que tu y penses », donc elle est très carrée. Problème, ce producteur qu'elle a rencontré, elle l'aime beaucoup, mais elle n'a pas envie de passer pour une godiche lorsqu'elle va le voir. Donc, elle va se trouver de quoi prendre un peu d'expérience, si on peut utiliser ça, dans la personne de ce fameux livreur ange. Mais comme on est dans une histoire qui n'est pas si simple que ça, bah, peut-être que ce qui devait n'être une simple passade d'entraînement va amener des sentiments un peu plus poussés. Je te l'ai pas passé, tiens, si tu veux le feuilleter. Merci. Alors attention, c'est à réserver un public averti.
D'accord.
Même s'il n'y a pas de choses explicites, on va dire, ça reste un ouvrage érotico-romantico, donc qui est assez dense. J'ai pas regardé le nombre de pages, mais c'est quand même un gros pavé. Et ça va apporter plein de choses. On va retrouver du loufoque, puisque les personnages ont un côté, ils peuvent passer du côté très sérieux au côté cartoon. Quand elle s'énerve contre ses subalternes, on a vraiment le démon à grandes dents qui prend les trois quarts de la page avec le personnage en face qui est tout petit. C'est vraiment très sympa. Il y a un côté très sensuel, il y a un côté très borderline en fait sur le côté sexuel qui marche bien. Qui est juste ce qu'il faut, des moustillants. Alors, des fois, c'est un petit peu plus osé que d'autres, mais ça marche bien. Et l'histoire n'est pas nunuche. On va pas lire du Harlequin, mais on va pas lire du Marc Dorcel non plus. Donc, on a vraiment cet entre-deux qui marche très très bien. Et j'avoue que je pensais pas prendre autant de plaisir à lire ça que ce que j'y ai pris du plaisir. Donc, c'est vraiment une histoire qui est sympathique. On a un personnage qui est globalement plutôt travaillé sur ses émotions, sur son ressenti. Le côté romantique peut être un peu gavant avec les « je t'aime, moi non plus », mais attendez, ça se voit comme le nez de la figure que vous vous aimez, dites-le vous, et puis c'est fini. Mais du coup, l'ouvrage ne ferait que 30 pages, alors qu'il y a une histoire qui vraiment se raconte. le temps est pris de nous raconter cette histoire et ça marche vraiment sympa. Tout est en noir et blanc avec des niveaux de gris bien sûr, mais il y a que quelques teintes de rose qui viennent égayer un peu le paysage. C'est un rose bien flashy, hein, mais ça marche bien. C'est plutôt efficace, donc c'est plutôt cool. Donc on en parlait tout à l'heure avec Menu et Mano qui ne sont pas restés, mais on est entre le manga, il y a des élans de comics, c'est une BD italienne, donc et c'est une BD qui a été récompensée par un Eisner Award, je ne sais plus. Est-ce que tu peux juste regarder à la toute fin, hop, dans le volet, mince, comme je ne prends pas de notes, hop, elle a eu un Harvey Award à la New York Comic Con en tant que meilleur livre international. Et je trouve que c'est amplement mérité. Et je me suis fait un petit challenge, c'est que moi je ne savais pas qui était Mirka Andolfo. Donc Mirka Andolfo, c'est quelqu'un qui a fait plusieurs ouvrages en France, qui a travaillé pour DC sur des séries comme Harley Quinn, comme Vampire, comme Wonder Woman, pardon. Elle a aussi travaillé sur du Disney. Je ne savais pas si c'était un homme ou une femme qui avait écrit. Mirka, je ne connaissais pas le prénom. Je me suis dit, bon... On a un personnage qui est globalement un cliché de femme fatale tel qu'un homme pourrait l'imaginer, mais c'est une femme qui l'a écrit. D'accord. Et on sent qu'il y a une façon de raconter l'histoire qui n'est pas juste pour le plaisir des yeux, ni pour le plaisir de raconter quelque chose d'un peu osé. Il y a vraiment quelque chose qui a été poussé plus loin et on a cette petite touche qui, peut-être pas forcément du vécu, mais qui n'est pas juste un fantasme masculin posé sur papier. Et ça marche vraiment très bien. Donc n'hésitez pas à le prendre. Alors le laissez pas porter les enfants, sinon ils vous poseront des questions auxquelles vous aurez pas du tout envie de répondre. Mais ça marche vraiment bien. Tu vois, moi quand je vois des pages comme ça, je trouve ça assez génial en fait.
Ouais,
c'est beau. C'est assez parlant parce que c'est l'héroïne qui est devant son papa en fait, qui lui fait très peur. Donc voilà. Donc ça marche très très bien. Un beau petit bijou à prendre aux éditions Glénat, Sweet Paprika. De Mirka Andolfo et qui a scénarisé, dessiné, donc c'est vraiment plutôt cool. Hop, on était parti du côté comics, et ben on va continuer du côté comics, comics ou espagnol, ou italien, je ne sais pas vraiment parce que il y a pas de genre espagnol, j'en veux avec l'Espagne, il y a pas de genre italien à proprement parler. On va partir avec un album publié aux éditions Urban dans la collection Indies qui s'appelle The Plot Holes. C'est de Sean Murphy, Dave Stewart et Matt Hollingsworth, un trio qu'on a déjà entendu sur plusieurs ouvrages. Là, c'est un ouvrage complet. Donc, c'est-à-dire que vous l'achetez, vous avez un récit complet qui s'arrête là. On sait un petit peu que dans le comics, c'est pas toujours le cas, mais c'est assez original puisqu'on va suivre en fait un groupe de héros. Issus d'ouvrages de différents univers romancés ces personnages vivent en dehors en fait de leurs univers de romans d'origine et ils sont au sein d'une structure qui est là en charge de réparer des ouvrages dont la trame narrative est un peu trop pourrie pour que ces ouvrages puissent quand même gagner un succès et tout se passe pas comme on voudrait. Et on va suivre un personnage qui, il y a un personnage qui va être recruté par l'éditrice, donc qui est la chef, on va dire, de ce groupe, qui lui est à la base un auteur de comics un peu raté, donc qui peut être aussi vu comme une mise en abîme de l'auteur, alors, qui est tout sauf un auteur raté, parce que Sean Murphy c'est quand même un mec qui pèse, on va dire, dans le game, pour reprendre des mots voilà. Mais ça marche plutôt bien, et ils vont suite à un événement que je vous gâcherai pas, être obligés de traverser plusieurs autres ouvrages pour éviter la destruction non seulement de leur structure, mais aussi de la mission qu'ils se sont donnée de sauver plein d'ouvrages. Donc c'est plutôt sympa. En termes de graphisme, on est sur du graphisme comics, mais on a chacun des personnages de cette entente qui s'appelle les incohérents, qui a son propre style graphique. On a un personnage plutôt type manga, on a une vampire qui est plutôt type roman, comment dire, roman français, graphique dark. On a un personnage qui est plutôt typé personnage de cartoon des années 50 américain. Et on a plein d'univers différents qui se côtoient dans cet ouvrage-là, qui fonctionne bien. Donc, c'est une petite surprise, plutôt sympa. J'ai la personne qui me l'a prêté n'a pas été plus convaincue que ça en fait par l'ouvrage, trouvant qu'il manquait en fait de consistance. Alors effectivement, c'est surtout un livre d'aventure, mais ça met aussi en avant quelques faiblesses qu'on peut trouver dans certains ouvrages écrits trop vite, où justement on peut avoir un personnage qui est très bien écrit, mais tout ce qui se passe autour c'est un peu faible. Et ça parle un petit peu de tout ça, ça parle d'autre chose. Il y a un cahier graphique à la fin qui est plutôt agréable pour voir la construction de l'album et ça marche vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à aller lire. Ça s'appelle The Plot Holes, c'est publié chez Urban Comics dans la collection Indies. C'est de Sean Murphy, Dave Stewart et Matt Hollingsworth. Et globalement, si vous voyez un de ces trois noms sur une couverture d'album, n'hésitez pas à y aller. C'est plutôt un gage de qualité. Avant de repartir vers un petit peu de manga et puis d'autres choses, je vous mets un groupe japonais qui s'appelle Atarashi Gakko et la chanson s'appelle Suki Liye.
Suki Kirai. Suki Kirai. Suki Suki Nai Nai. Suki Nai Nai. Usa Suki yo watashi anata mitai. Rokuden nashi wa machide. ピンポンピンポン、どちら様ですか？ジロジロ、見知らぬ女性。なぜかしら、目を泳ぐあなた。ドアを開けて気づきました。私抜きのロマンスでした。浮つく愛の爆弾。
Atarashi Gakko avec Suki Lai sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours la case de Seb. Si vous connaissez pas Atarashi Gakko, n'hésitez pas à aller voir leur clip après l'émission, hein, bien entendu. Mais c'est assez particulier et c'est étrangement hyper addictif. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. On va parler un petit peu de manga. Alors je vais faire vite, je sais pas si j'aurai le temps de tout parler. Le manga dont je vais parler s'appelle Berserk of Gluttony. C'est une histoire d'Ichika Ishiki. Ça fait beaucoup d'Ishi. Et Daisuke Takino est sur un dessin original de Fame. C'est publié aux éditions Mao. Les éditions Mao que j'ai eu l'occasion de rencontrer à l'Angers Geek Fest. Il y aura un petit bout d'interview qui sera publié prochainement. Ce sera peut-être l'occasion d'en reparler peut-être plus en détail de Berserk of Gluttony. Berserk of Gluttony, imaginez un monde... tiens, je te passe le manga, comme ça tu peux feuilleter en même temps. Un monde d'heroic fantasy. Où il y a une espèce de dissension entre des gens qui ont certaines capacités et des gens qui ont des capacités mineures. Quand tu as une grande capacité, bah tu peux devenir un grand héros. Et puis quand tu as une capacité mineure, bah tu gardes les portes d'entrée des héros où tu as des jobs un petit peu tout pourris. Et puis on a un personnage qui est un peu le souffre-douleur de trois héros ou d'un groupe d'héros, je sais plus combien ils sont, qui n'a pas de capacité ou une capacité qui s'appelle la gloutonnerie, ce qui fait qu'il a tout le temps faim. Mais comme il est un peu pauvre, ben il peut pas vraiment se payer à manger. Et il y a une jeune femme qui vient à sa défense. Bon, enfin, je rentre pas dans le détail de tous les méandres de l'histoire, mais à un moment, accidentellement, il va tuer quelqu'un. Et là, il y a un petit pop-up qui apparaît, comme dans un jeu vidéo. Ça, ils aiment bien les Japonais montrer les capacités des gens via des jeux vidéo. Et en tuant cette personne-là, le petit pop-up affiche « gloutonnerie activée ». Et en fait, il se rend compte qu'il a, en tuant cette personne, capturé son âme. Il a avalé l'âme et les compétences de cette personne-là. Et il va se rendre compte que c'est super pratique, en fait, de pouvoir gagner des XP, des points d'expérience en tuant d'autres personnes. Mais lui, il n'aime pas trop tuer, donc ça le gêne un petit peu. Et il y a une problématique, c'est qu'en fait, cette gloutonnerie, plus il va gagner d'expérience, plus il va gagner de compétences en utilisant cette capacité, plus il va avoir faim. Et du coup, plus alors, il va rester une période où il n'a pas faim, mais à un moment, s'il n'a pas tué, sa compétence va commencer à s'activer, il va avoir les yeux rouges, il va pouvoir ressentir les âmes de toutes les autres personnes comme si il était un chasseur qui sentait une proie, et il va avoir un besoin irrémédiable de tuer quelque chose pour pouvoir augmenter ses capacités. Là, c'est que le tome 1. On ne sait pas vraiment comment ça va s'articuler après, mais ça, c'est la capacité du manga, et c'est vraiment sympa. Graphiquement, ça marche plutôt bien. On est sur un trait qui est plutôt clair, qui est plutôt intéressant, mais on a des chara-design qui sont plutôt cool. Les armures ont l'air d'être cohérentes. Je me suis pas penché sur le design des armures, mais c'est sobre sans faire d'excès. Il y a un peu de gore, il y a un peu de sang. Hein. Il va trucider des gens, donc bon. Il fait pas ça forcément très très proprement. Quand t'as très très faim, souvent t'as tendance à faire un peu de bazar. Mais ça marche très très bien. C'est un manga qui est issu d'une light novel. Donc les light novels, c'est des courts romans, souvent d'heroic fantasy ou des premiers romans, qui sont souvent adaptés en manga par la suite. Donc c'est avant tout une histoire écrite. Et vous avez tout un chapitre qui est fourni à la fin du manga. Donc c'est un court chapitre qui permet aussi de vous donner envie, puisque les éditions Mao publient aussi les light novels et les mangas qui sont associés. Donc on a échangé. Moi j'ai choisi celui-ci pour pouvoir vous en parler, mais le catalogue est plutôt varié. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir dans une prochaine émission avec un petit bout d'interview qui a été fait à Angers Geekfest. Donc je vous redonne les références. C'est Berserk of Gluttony, c'est de Mao Édition. Il y a un tréma sur le haut, je dois se prononcer quelque part d'une façon, mais je ne sais pas. Ouais. C'est d'Ichika Ishiki en histoire, c'est de Daisuke Takino au dessin, et c'est de Fame sur les chara-design originaux. Lequel j'enchaîne. En fait, ils ont l'air tous bien, je pense que je vais pas avoir assez de temps pour en parler. On va parler des Murailles Invisibles, qui est publié aux éditions d'Argo, d'Alex Chauvel et Ludovic Rio. C'est le tome 1. Comment résumer les Murailles Invisibles? Imaginez, donc c'est un livre post-apocalyptique, mais avec une apocalypse telle qu'on ne l'a pas imaginée. Imaginez que du jour au lendemain, comme ça, là, par exemple dans le studio, il y a un mur invisible qui se dresse entre moi et Emily. Et incapacité de franchir ce mur-là. Et je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté, parce que je ne vois pas vraiment ce qui se passe de l'autre côté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces murs qui se sont dressés ont déclenché différentes temporalités sur chacune des zones qui les séparent. C'est-à-dire que dans la zone où moi je suis, le temps s'écoule d'une certaine manière, et dans la zone où Emily se situe, le temps va soit plus vite, soit beaucoup plus lentement. Et un jour, on a notre héros est un homme standard de notre époque, qui s'appelle Lino. Il va tomber face à un groupe de personnages qui vient d'une civilisation où le temps s'est écoulé beaucoup plus vite que dans sa zone à lui, parce que pour lui, ça n'a pas bougé. Hein. Il se situe encore dans un Paris dévasté des années 2023, hein, de toute façon. Je suis pas persuadé que la date soit dite. Mais le groupe d'explorateurs a une technologie qui leur permet de voir des failles à l'intérieur des murs et de passer d'une zone à l'autre. Mm-hmm. Et du coup, ils vont embarquer notre cher ami Lino, qui va leur servir de scribe pour relater les histoires et les aventures qu'ils vont pouvoir vivre. Sachant que leur but est d'arriver à trouver la source de ça pour pouvoir retourner dans leur civilisation et arrêter un petit peu cette problématique. Donc, c'est hyper intéressant. C'est la première fois que je voyais une apocalypse, on va dire, temporelle, parce que on a vraiment un schéma qui est très très différent. Ça implique plein de choses, parce que le chemin que va parcourir ce groupe d'explorateurs essaie de toujours trouver des endroits où les temporalités ne bougent pas trop vite, pour justement que quand ils reviennent en arrière, il se soit pas passé 200 ans, alors que pour eux, c'est passé qu'une heure. Donc c'est vraiment des thématiques qui sont plutôt intéressantes, qui marchent plutôt bien. Donc c'est plutôt c'est un ouvrage qui est plutôt sympa. Alors, tu vois la couve, on voit bien la démarcation entre les deux personnes, mais ça marche bien. Le dessin est plutôt agréable. On est sur une sorte de ligne claire qui est plutôt efficace. J'aime bien le rendu un peu mat du dessin, qui change des choses qui sont très très colorées parfois. Donc ça apporte une certaine ambiance. Ça me rappelle un petit peu certains Spirou et Fantasio à l'ancienne. Je sais pas si ça te fait le même effet.
Ouais, si, carrément.
Donc c'est plutôt intéressant. J'avoue que la fin du tome 1, on se dit encore, parce que on sait pas ce qui se passe, on sait pas pourquoi. C'est pas vraiment. Enfin, on va partir un petit peu à la recherche de ça, mais ça m'a un peu fait penser à l'Ordre du Contrevent. Je sais pas si tu vois l'ouvrage. Non. Avec une planète qui est ravagée par des vents, et en fait on va suivre un groupe de personnes qui décident de remonter contre le vent pour savoir d'où viennent ces vents. Ça m'a fait un petit peu penser à ça, donc sauf que là ils se déplacent dans des temporalités qui peuvent être un peu complexes, donc c'est plutôt intéressant. Je vous redonne les infos, c'est Les Murailles Invisibles, c'est le tome 1 publié aux éditions d'Argo, c'est d'Alex Chauvel et Ludovic Rio, et c'était que le tome 1, et sortez le tome 2 vite, s'il n'est pas déjà sorti. Mais moi, j'ai envie d'avoir la suite très rapidement. That's all, folks. Et oui, vous venez de l'entendre, c'est Porky qui annonce la fin de l'émission. Il est 19h56, c'est pas mal de secondes, bientôt 57, dans la case de Seb. J'étais en compagnie aujourd'hui d'Amy Bill, qui vient de sortir son dernier album, qui vient de sortir, qui n'est pas encore sorti, attention, qui sortira jeudi, Journal d'Instit. On n'en a pas parlé, mais du coup, tu seras en dédicace. Enfin, on en a parlé, des dédicaces, en dédicace chez Richer. Cette semaine, c'est
ouais,
ça?
Samedi, là, ouais.
Samedi. 29. La semaine suivante. Dans deux semaines, à Cultura. À l'Atoll. L'album sera disponible partout.
Oui, toutes les librairies, ouais.
Tu as aussi tes anciennes, séries. Pas si vieux que ça, en fait, quand même.
Non, novembre 2022, là, le tome 3. Donc,
ouais, t'as enchaîné, hein.
Ouais, ça a été rapide.
Donc, ce sera retrouvable dans toutes vos bonnes librairies et même dans les librairies par correspondance. Je ne donne pas le nom parce que j'ai pas envie que vous y alliez. Mais voilà, n'hésitez pas à vous procurer ces albums. C'est plutôt drôle, c'est plutôt sympa. C'est à mettre entre les mains de toutes les personnes. Ça vous rappellera vos années de mauvais garnement à l'école. Et puis, ça peut aussi faire plaisir à vos instits. N'hésitez pas. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose?
Non.
Bon, peut-être septembre aussi, un autre
oui,
festival.
Oui, septembre, le festival loin, mais... Mon Geoffroy se livre à Mazé-Milon.
Eh ben, écoute, le rendez-vous 24. Est pris pour aller faire dédicacer au Journal d'Instit d'Amy Bill. On se retrouve dans 15 jours, ou pas, parce que ce sera un jour férié, je ne sais pas si je serai là. Je vais encore réfléchir, peut-être de manière enregistrée, histoire de pouvoir en bénéficier. Et la semaine prochaine, on se retrouve mardi soir de 22h-23h pour Les Voix du Scénarium. C'est tout pour moi aujourd'hui. Retrouvez dans quelques instants le podcast sur le www.radio-g.fr, pas facile à lire. Et puis en attendant, n'oubliez pas de lire, il paraît que ça rend intelligent.
Eh ben, vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, mais je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Rendez vite! Tu n'es pas chez toi ici!
Justement! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi? Mais c'est fini! Rentre chez toi!
Radio G. 101.5 FM.
Vous êtes bien à l'écoute de...